Bonjour à tous. J'ajoute aussi à toutes nos prières une prière spéciale pour notre pasteur Jean-Haut qui devait normalement assurer le message aujourd'hui mais qui est malade, donc que le Seigneur l'accompagne aussi. Donc je le remplace un peu au pied levé avec une prédication que j'avais sous le coude et qui je pense peut convenir en cette période où on commence à sentir vraiment que l'automne s'installe et que les nuits commencent à rallonger aussi, parce que je vous propose de plonger ensemble dans une nuit un peu mystérieuse qui est racontée au chapitre 32 de la Genèse. Une nuit de lutte et de fragilité, une nuit de rencontre physique entre Dieu et l'homme, où nous est donné de voir notre visage le plus intime et en amour, comme on en a parlé justement dans la présidence, en amour qu'on ne pourra jamais vraiment nommer. Une nuit dont nous sortons à la fois vainqueurs et vaincus, pour toujours marqués, et une nuit qui nous conduit, comme toute nuit, vers une aurore, une aube où chacun et chacune peut être béni, béni face à Dieu et aux hommes. Alors vous avez peut-être reconnu la scène qu'on appelle traditionnellement la lutte de Jacob et de l'ange, et je pense, oui, vous voyez donc un tableau du peintre Marc Chagall qui porte exactement ce titre et qui représente cette scène, même si on va le voir pour la petite histoire, au fait, dans le passage de la Genèse, il n'est jamais question d'un ange, c'est seulement le prophète Osée au chapitre 12 de son livre qui parlera d'un ange. Alors j'ai choisi cette image, j'aime beaucoup Marc Chagall, et deux choses me marquent dans cette image. D'abord, c'est le fait que la bénédiction, elle est donnée vraiment dans une proximité physique, et j'y vois une invitation pour nous à oser faire face et à nous laisser façonner par cette bénédiction. Et puis il y a aussi tous ces petits dessins, il y a la scène principale de la bénédiction de Jacob, et puis il y a tous ces petits dessins, et on peut y reconnaître la vie de Jacob avant cette nuit-là. Alors en haut à gauche, il y a un puits, et on voit sa rencontre avec Rachel au bord du puits, donc un épisode de sa vie avant cette nuit-là. Puis on peut reconnaître aussi au milieu à droite un autre puits dans lequel est jeté son fils préféré, Joseph, par ses frères, un épisode qui aura lieu après cette nuit-là. Et puis, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais tout en haut à droite, on voit aussi des petites maisons qui évoquent, au fait, la ville natale du peintre de Chagall. Il a souvent dans ses tableaux, il met des éléments de sa vie. Et j'y vois aussi comme on appelle, nous aussi, aujourd'hui, à inviter dans cette scène des lieux importants de nos vies, des événements de nos vies, des personnes qui nous ont marqués, des personnes qui nous manquent, qui nous ont blessés parfois ou qu'on peut avoir blessés. Ces nœuds aussi dans nos relations et puis l'avenir qui nous est offert, parce que si elle implique des luttes et du courage face à Dieu et aux hommes, la bénédiction est aussi pour chacun et pour chacune de nous. Je vous propose de nous immerger à présent dans ce texte qui est un des récits les plus anciens de la Bible et qui fait partie de ce qu'on appelle la saga de Jacob. Et une saga, au fait, c'est un texte où ce qui compte le plus, ce sont les gestes. Et on verra dans ce passage, il y a surtout des gestes, juste quelques paroles, et on ne dit absolument rien de ce que ressentent les personnages. Et en fait, c'est un peu la même structure que les contes de fées, avec toute une série d'actes qui s'enchaînent, mais sans trop savoir ce que pensent les personnages. Et on trouve aussi dans ce texte un exemple de ce qu'on appelle un récit étiologique. Donc un récit étiologique, c'est un récit dont le but est de donner une explication à quelque chose dont on ignore l'origine. Et ce passage, il donne, en fait, c'est un petit passage, et on a quand même trois explications. Celle du nom d'un peuple, Israël, on va le voir, le nom du lieu Péniel, et puis un tabou alimentaire qui empêchait de manger le tendon qui se trouve à l'emboîture de la hanche. On a fait trois explications. Alors Jacob est à un tournant de sa vie. Il est enfin revenu de son long exil chez son oncle Laban, et il se prépare à affronter son frère Ésaü, son frère aîné qu'il n'a plus vu depuis 20 ans et à qui il a volé la bénédiction de son père. Donc c'est donc dans un contexte vraiment de conflit humain, comme un peu coincé entre son oncle et son frère, que Jacob va rencontrer un Dieu tout à fait inattendu et au-delà de toutes ses représentations. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob. » Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit, là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Alors je vous partage d'abord quelques tout petits mots de l'écrivain Elie Wiesel à propos de ce passage. Aventure étrange, mystérieuse, de bout en bout, d'une beauté à faire frémir, d'une intensité à faire douter des sens, qui n'a-t-elle fasciné ? Philosophe et poète, rabbin et conteur, tous cherchent à résoudre l'énigme de ce qui s'est passé cette nuit-là à quelques pas du ruisseau Jabbok. Alors on ne va évidemment pas résoudre l'énigme, mais je vous propose juste de rejoindre ensemble cette nuit-là, avec tout ce que nous sommes aujourd'hui, avec les personnes et les lieux de notre histoire, et de simplement nous laisser rencontrer, nous laisser bénir, nous aussi, dans notre relation à Dieu et aux hommes. Faire face, tout d'abord, affronter la nuit. Jacob y est invité dès le début du récit. Il est seul, il a laissé ses femmes, ses servantes, ses enfants, et puis tous ses biens, donc tout ce qui pouvait lui donner une certaine sécurité. Et nous aussi, face à la nuit, on est souvent renvoyé à cette solitude, que ce soit la nuit de la souffrance, de l'épreuve, du deuil, de l'angoisse ou simplement des insomnies. Et faire face, c'est pas facile, ça nous est pas trop naturel et en tout cas, ça n'était pas du tout pour Jacob, lui qui, au contraire, toute sa vie n'a cessé de fuir d'abord son frère Ésaü et puis récemment son oncle Laban. Et la nuit, pour lui, a été l'occasion de toutes les ruses aussi. Il a profité de la nuit dans laquelle était plongé son père Isaac, qui devenait aveugle, pour se faire passer pour son frère et lui arracher sa bénédiction. Et plus tard, une autre nuit, c'est Jacob lui-même qui va se faire duper par son oncle Laban, qui profitera de l'obscurité pour glisser dans son lit de noces, non pas Rachel que Jacob désirait épouser, mais sa sœur, Léa. Mais cette nuit-ci, il n'est plus question de fuir. L'affrontement a lieu tout de suite. Quelqu'un, un homme, lutte avec Jacob jusqu'à l'aurore. Alors le mot hébreu qui est utilisé ici pour lutter se retrouve juste dans ce passage et il ressemble très fort par ses sonorités à Jacob et le ruisseau Jabbok. Et il y a même un auteur qui a proposé de le traduire en français par Jacob boxe au Jabbok. On entend ce jeu de sonorités. Pour ceux qui se souviennent de leur cours de français, on appelle ça une allitération. Et puis c'est un mot aussi par sa signification, il est très loin du vocabulaire guerrier habituel et littéralement, en fait, il veut dire « s'empoussiérer ». C'est donc un combat qui renverse toutes nos perceptions. Et on retrouve ici les deux éléments qui sont nécessaires à la création de l'homme au début de la Genèse, la poussière de la terre avec cette idée de s'empoussiérer et puis l'eau avec la proximité du Jabbok. au cœur de nos nuits les plus sombres, se profile déjà comme un espoir, une recréation possible, une nouvelle naissance. Affronter la vie, ses conflits, sa réalité ne nous laisse pas indemnes, on le sait tous et on porte tous sur notre corps des traces et des cicatrices, des moments heureux comme malheureux de notre vie. Et Jacob aussi sera marqué à vie par son combat au creux de son corps, à l'emboîture de la hanche, selon une autre traduction, à l'intérieur de la cuisse. On ignore le lieu exact, mais en tout cas quelque part dans son intimité. Pour le vaincre, l'adversaire a dû le toucher en son point le plus sensible, en sa blessure la plus secrète. Alors que jusqu'ici, Jacob essayait toujours de l'emporter, de ne pas perdre la face, il dépose enfin les armes. Faire face, paradoxalement, ce n'est pas être sur la défensive, mais c'est souvent aussi simplement accepter la réalité, la regarder en face telle qu'elle est, baisser la garde et déposer les armes, et puis découvrir que celui qui nous révèle nos blessures est aussi celui qui les rejoint, celui qui vient s'empoussiérer avec nous pour traverser la nuit dans une mystérieuse danse sans parole. À l'aube, après le combat silencieux de la nuit, l'homme va lancer la première parole. Il demande à Jacob de le laisser aller, et Jacob répond qu'il n'en fera rien avant que son adversaire ne l'ait béni. On arrive donc ici à la bénédiction, c'est un terme aux multiples sens et qu'on emploie souvent. Quand je suis arrivée ici à l'église évangélique de Vendôme, j'étais très touchée par cette expression qui terminait les mails que certains d'entre vous m'envoyaient, « Sois béni ». Ça résonnait comme une promesse que j'ai envie de vous redonner, « Sois béni ». C'est la promesse que Dieu fait à chacun de nous. Et qu'il fait aussi, bien sûr, à Jacob. La bénédiction en hébreu désigne avant tout non pas une parole, mais un acte par lequel est transmis un don, et en particulier le don de la vie. Cet étrange désir d'être béni. Je reprends ici, c'est le titre du dernier livre de la théologienne Elisabeth Parmentier, et elle reconnaît vraiment cet étrange désir dans notre vie à tous, et il a vraiment été le moteur de la vie de Jacob, lui qui, pour gagner la bénédiction de son père, donc celui qui concrètement transmet ce don de la vie, n'hésite pas à se faire passer pour son frère. C'est un grand classique en psychologie, faire semblant d'être un autre pour gagner l'approbation, mais un chemin qui conduit Jacob à 20 ans d'exil. Moi aussi, comme Jacob, j'essaye parfois de gagner l'approbation des autres en cachant mes fragilités, qui je suis vraiment, et j'ai parfois du mal à attendre l'accomplissement des promesses de vie que Dieu me fait. Et cela finit toujours par m'éloigner de moi, de Dieu et des autres. Mais Dieu est fidèle. Et pour Jacob, une promesse est sur le point de s'accomplir. Il rentre chez lui après ses 20 ans d'exil. En don qui ne va pas non plus sans un engagement concret, Jacob sait très bien ce qu'il attend, c'est l'affrontement avec son frère Ésaü, qui est d'ailleurs déjà en route vers lui avec 400 hommes. Et aujourd'hui totalement vulnérable et désarmé, Jacob a peur de cette rencontre. Il faudra qu'il patiente pourtant encore un peu pour la bénédiction. Son adversaire ne va pas la lui donner tout de suite. Et je trouve qu'on voit ici toute l'importance du temps, de la confiance, du lent approfondissement. L'homme répond en fait à la demande de Jacob par une question. Quel est ton nom ? Alors pour ceux qui étaient là la semaine dernière, Guillaume l'a bien rappelé, le nom d'une personne dans la culture hébraïque, c'est vraiment son identité, sa raison d'être au monde, sa vocation. Jacob, qui es-tu ? Et dès qu'il répond, Jacob reçoit un nouveau nom. À l'époque, le changement de nom désignait aussi souvent un changement de maître. Donc c'est un peu comme si son adversaire disait aussi à Jacob, « Jacob, à qui es-tu ? » À qui veux-tu être ? Veux-tu rester Jacob, qu'on peut traduire littéralement par le talon, celui qui tente toujours de talonner, de dépasser les autres, ou devenir Israël, celui qui lutte, qui ose faire face à Dieu et aux hommes, celui qui m'appartient ? On peut traduire Israël de multiples façons. On pourrait dire lutteur contre Dieu, lutteur avec Dieu, lutteur de Dieu, ou encore Dieu lutte, mais il y a toujours cette idée de lutte et de Dieu. Et ce changement de nom, comme sa blessure, va marquer Jacob à vie, et même au-delà. À nous aussi est adressée cette question intime. Qui es-tu ? À qui veux-tu appartenir ? N'oublies-tu pas parfois, face à la nuit, ton identité profonde d'enfant bien-aimé de Dieu ? Tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur, dit finalement son adversaire à Jacob. On arrive ici au lien entre Dieu et les hommes, même si en hébreu l'expression « Dieu et les hommes » peut parfois simplement se traduire par « très fort » ou « violemment ». Et c'est vrai qu'on doit parfois lutter très fort dans nos relations. Lutter avec Dieu, se laisser réconcilier avec lui, c'est aussi se laisser réconcilier avec les hommes. Et face au Laban et aux Ésaü de nos vies, Dieu vient parfois attaquer directement toutes nos illusions de victoire, nos solutions trop rapides et magiques, toutes les fausses images qu'on peut se faire de lui, de nous-mêmes ou des autres. Mais s'il vient alors nous provoquer dans cette sorte de combat serré, ce corps à corps, c'est aussi parce qu'il nous croit capables de changer. C'est le cas pour chacun de nous et c'est le cas pour Jacob. Et on le voit très concrètement juste avant cette nuit. C'est son oncle Laban qui va rattraper Jacob dans sa fuite pour établir entre eux une alliance et puis une claire séparation. Mais après cette nuit, Jacob va oser lui-même aller à la rencontre de son frère, Ésaü. Contrairement à Caïn et Abel, ici les frères rivaux vont choisir la confrontation. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir les meilleurs amis du monde, puisque chacun va partir ensuite de son côté, mais chacun aura laissé à l'autre un lieu pour exister. Être vainqueur face à Dieu et aux hommes, ce n'est pas comme Jacob le croyait, toujours talonner, dépasser les autres. Il sort du combat boiteux à vie, pourtant, il est vainqueur. Jésus dirait qu'il est entré dans la vie boiteux. Et c'est précisément parce qu'il s'est laissé totalement désarmé qu'il peut être vainqueur. Pour nous sauver, Dieu lutte avec nous comme avec Jacob, jusqu'à ce que nous ayons compris la seule vraie victoire, son amour. Un amour qui, paradoxalement, se laisse vaincre. Un amour qui va jusqu'à donner sa vie pour nous, et grâce auquel la victoire nous appartient à jamais. Jacob est tellement retourné qu'il en oublie un moment cet étrange désir, cette idée fixe qu'il a d'être béni et qu'il retourne la question à son adversaire. « Et toi, qui es-tu ? Quel Dieu es-tu ? Toi qui luttes avec moi comme un homme dans la poussière et qui me retourne à ce point. » Dans les religions antiques, connaître le nom d'un Dieu permettait d'avoir accès à son mystère, de mettre la main sur lui, de le manipuler. Alors Jacob n'aura évidemment pas de réponse à sa question, juste une question supplémentaire qui le renvoie à lui-même. Pourquoi vouloir mon nom ? Pourquoi ne pas juste accepter le mystère que je serai toujours pour toi ? Car Dieu reste ce mystère que je ne pourrai jamais vraiment nommer, et c'est d'ailleurs tout l'exercice délicat de la prédication. Dieu reste en amour, qui toujours me dépasse. Et c'est dans le silence de cet amour qu'il bénit enfin Jacob. Jacob qui a osé se confronter à lui, qui s'est laissé façonner, recréer, marquer et nommer. Au lieu de nommer ce Dieu, Jacob va alors nommer le lieu de leur rencontre, de leur face-à-face, Péniel, c'est-à-dire face de Dieu. Comme son adversaire avant, avec le nom Israël, il nomme ainsi indirectement ce Dieu qu'on ne peut nommer. Mais dans tout le récit, l'adversaire reste bien un homme, celui de la lutte silencieuse, d'une nuit. Non pas un ange, entre un homme et un Dieu, comme le décrira ensuite Osée, mais un homme. Un homme qui se révèle aussi être Dieu. Alors on reconnaît bien sûr dans ce lutteur une préfiguration du Christ incarné, ce Dieu fait homme, qui qui n'a pas peur de venir lutter avec nous dans nos poussières et qui nous donne paradoxalement la victoire à la croix. Le soleil se lève, toutes nos nuits ont une fin, et c'est ce qu'on célébrera dans quelques mois à Noël, la victoire de la lumière sur les ténèbres. Jacob s'en va en boitant, il n'oubliera jamais cette nuit, et encore moins ce Dieu. La rencontre avec Dieu et les hommes n'est pas toujours facile, pourtant la bénédiction nous sauve, nous permet d'échapper à la fatalité de la nuit. Non pas en supprimant nos conflits, mais en les dévoilant et en les éclairant, même si cela n'efface pas pour autant les conséquences et les blessures. Comme l'écrit Marie-Laure Choplin, « La nuit donne sur la lumière, mais de cette traversée, nous ne pouvons garder grand-chose dans nos mains. » La nuit donne sur la lumière, ce n'est pas une réponse et ce n'est pas un sens. Ça ne rajoute rien à la vie et ça n'en soustrait rien. Ça ne compense rien. Ça ne récompense de rien. Ce n'est pas un cadeau obtenu à force. Ce n'est pas une chose passée de Dieu à nous. C'est son amour et nous sommes entièrement dedans. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur. C'est ton amour et nous sommes entièrement dedans. C'est ta bénédiction, ce don de vie qui conduit nos nuits vers l'aube. Nous remettons entre tes mains les lieux, les personnes, les blessures, les nœuds de nos vies. Toi seul connais nos luttes et nos nuits. Merci Seigneur, parce que tu as choisi de venir t'en poussiérer avec nous. Et parce que ton amour qui se laisse vaincre nous offre à jamais la victoire. Merci parce que cet amour dépassera toujours les images que nous pouvons en avoir. Merci enfin parce que comme Jacob, tu veux nous façonner, nous recréer, nous marquer et nous nommer. Oui, viens vraiment nous bénir, Seigneur, au plus profond, face à toi et aux hommes. Amen.